Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Propos, l'émission de Radio Rancière hebdomadaire qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets d'église, mais pas que, des sujets aussi nationaux, internationaux. On va justement peut-être commencer par un hommage à Armand Soldin. Armand Soldin, rappelez-vous, c'est ce journaliste de l'AFP qui est mort en Ukraine il y a déjà quelques jours. On a beaucoup parlé, évidemment, de ce décès parce qu'on ne pense pas assez souvent, évidemment, en regardant les images que diffusent les télévisions, aux risques encourus par les journalistes qui couvrent les événements.
Oui, bonjour à tous. Bien sûr, je ne connaissais pas ce journaliste avant qu'on ne parle de lui dans ces nouvelles qui annonçaient sa mort. C'est vrai que quand on regarde des documentaires sur les grandes guerres, 14-18, 39-45, on voit ces images de guerre parfois terribles, non pas des reconstitutions ou des films après long métrage, mais des images prises sur le vif, et on se dit, mais celui qui avait la caméra en main, il était victime des obus comme le soldat à côté de lui, donc c'est un métier où il faut un courage, une ardeur incroyable. Mais c'est important parce que si on n'a pas ces gens sur le terrain, on nous rapportera pas la vérité des faits, le courage bien sûr des soldats, parfois des exactions dramatiques, enfin des choses qui sont très dures à voir aussi, mais c'est aussi l'histoire qui a besoin d'une vraie mémoire. Donc je tire mon chapeau, comme on dit, à ces hommes, ces femmes qui vont sur le terrain, qui parfois on les voit avec un casque et un gilet pare-balles pour nous parler dans le micro, sachant qu'ils risquent leur vie réellement. Donc, paix à son âme, je souhaite qu'il repose en paix vraiment. Mais merci à ces gens qui permettent que la vérité soit transmise avec le monde actuel et les réseaux, mais aussi les fake news et l'intelligence artificielle capable de créer des fausses images, de faux discours. Je pense que leur rôle est vraiment important.
Ouais. Puis c'est l'occasion de reparler de l'Ukraine parce qu'effectivement, on s'habitue un peu, hélas, à ce conflit qui s'éternise et on n'en voit pas la fin et on ne voit pas l'issue non plus.
Oui, et puis on a vu dans d'autres situations pas très anciennes que les conflits durent des années. Ouais. Donc j'admire aussi le courage des Ukrainiens de tenir tête aux Russes. Après, il faut que tout le monde soit aussi honnête, clair et défendre une vraie démocratie. Voilà, je le souhaite.
Politique en France, une manifestation de l'ultra-droite à Paris. Alors, ils n'étaient pas très très nombreux, mais c'était extrêmement impressionnant. Ces drapeaux noirs frappés de la croix celtique et ces gens cagoulés de noir manifestant à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ce que je sais, c'est qu'en France, jusqu'à présent, il est possible à tout citoyen de manifester dans l'espace public ses convictions politiques, philosophiques et religieuses. Je l'ajoute, c'est la loi, hein, c'est comme ça. Parfois, on ne sait pas, donc on peut aussi manifester, nous, notre foi, par une procession, par exemple, dans la rue. Et ça, c'est le droit des citoyens. Donc, que des gens manifestent dans la rue leurs convictions politiques, comme c'était le cas de ces groupes, c'est légal, en fait. C'est légal à condition que l'ordre public ne soit pas troublé, qu'il n'y ait pas de danger pour les gens. Moi, je soutiens en rien du tout l'opinion de ce groupe d'ultra-droite. Ce que je vois, c'est que on s'est beaucoup ému dans les médias de cette manifestation qui regroupait 500 personnes environ, très ordonnée, très rigoureuse, on peut dire. C'était sûrement volontaire pour montrer qu'ils étaient des gens contrôlés, entre guillemets, qui se contrôlaient. Il n'y a eu aucun dégât, aucune casse par eux, tel que j'ai compris les événements. Ça ne me rassure pas, c'est sûr, de voir leurs opinions assez extrémistes. Maintenant, quand je vois que l'extrême gauche fait des manifestations qu'on ne critique pas autant, alors que leur position philosophique et politique m'inquiète énormément et me semble totalement folle parfois, mais que s'ajoutent en plus des violences et des dégradations qui sont insupportables, Je ne sais pas où est le danger, partout peut-être.
Il est partout,
mais...
peut-être. Oui. On a mis le feu à un policier lors d'une manifestation dernièrement à Paris.
C'est insupportable d'en arriver dans un pays comme la France, où en principe on peut encore parler librement, de voir des gens qui s'expriment avec une telle violence. C'est insupportable. Voilà, j'espère qu'on pourra encore parler librement. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire publiquement aujourd'hui sans être taxé aussi vite. Négativement, voire empêché. Il faut que la démocratie permette l'expression, mais dans une vraie paix, un respect des autres.
Oui. La tribune des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre dénonçant un système d'emprise durant plusieurs années dans leur couvent. C'est un texte de Roselyne de Romanet qui a été prieure de la congrégation des bénédictines entre 1998 et 2004 et qui a quitté la communauté en 2004. Ça, c'est encore une chose qu'on ignorait totalement. Ça a duré plusieurs décennies. L'Église a enquêté, d'ailleurs, je crois, à ce sujet.
Oui, moi, ces sœurs m'ont souvent plutôt impressionné en bien, parce que je les ai côtoyées à Paris, notamment à Montmartre, à Blarue, dans plusieurs sanctuaires, à une époque à Cotignac, elles étaient aussi là. Donc des femmes qui suivent la règle de Saint-Benoît, qui est une loi du 5e siècle très ancienne, une loi qui formate très bien la vie contemplative des moniales et des moines. Mais en l'occurrence, c'est souvent le fait de quelques femmes, hein, en l'occurrence là, qui ont manipulé d'autres femmes, ont peut-être contraint par des pressions anormales, des femmes à se taire quand elles n'étaient pas d'accord ou voilà, c'est bien que les choses éclatent parce qu'une vie contemplative c'est magnifique, c'est le signe que l'amour de Dieu peut remplir une vie et des hommes et des femmes embrassent cette vie contemplative dans le célibat, soit en étant moine ou monial, soit dans la vie active mais consacrée, mais ça ne se peut faire qu'avec une vraie liberté. Et toute forme d'abus touche à la liberté de la personne, et il faut le dénoncer, il faut le démasquer, il faut le dire, même si ça peut faire tache, comme on dit, parce que c'est en vue d'un bien meilleur, et surtout d'un bien qui va pouvoir perdurer, parce que ce qui est vicié dès le début ne dure pas, c'est comme l'amour entre un homme et une femme. Si c'est vicié, si c'est manipulé, ça ne durera que peu. Et tout le monde sera malheureux au bout du compte. Donc je suis plutôt content que les choses se fassent, se disent, sachant que j'ai compris aussi que depuis quelques années, elles sont accompagnées positivement et elles ont les moyens de refaire surface, comme on dit, pour un meilleur avenir.
Ouais, le rôle de l'Église, finalement, c'est quoi ? C'est de conseiller, d'aller voir ce qui se passe. Il y a des spécialistes au sein de l'Église pour...
Normalement, dès que l'Église est avertie d'un possible abus, on délègue une visite qui est de gens extérieurs, qui sont experts, qui connaissent cette vie, en l'occurrence, de monastique, et qui vont enquêter, qui vont recevoir les témoignages de chacun et de chacune. Et puis de là, se met en place un accompagnement, parfois des mesures, des peines qui sont imposées pour, par exemple, éloigner quelqu'un qui aurait été, justement... manipulateur, par exemple, pour qu'on retrouve une communauté en paix. Voilà.
Dernier sujet à l'occasion de la journée de l'amitié entre coptes et catholiques. Mercredi 10 mai, le pape François a présidé l'audience générale avec le pape copte Tawadros II. On en apprend tous les jours, je ne savais pas qu'il y avait un pape copte. C'est une visite évidemment importante, symbolique. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette foi copte, sur cette église ?
L'église copte correspond principalement à l'Égypte. D'ailleurs, le mot copte veut dire égyptien dans un langage ancien. En fait, avant que les musulmans de la péninsule arabique prennent par la force ces pays-là, avec leurs armées, donc occupent ces pays-là, ces pays étaient des pays entièrement chrétiens, avec des traditions liées à l'Église d'Orient, donc orthodoxe, avec leur langue, sachant que l'Église copte était en Égypte, mais aussi sur l'Éthiopie. Et l'Église éthiopienne a souvent dépendu de l'Église qui est en Égypte, au niveau des Coptes. Aujourd'hui, cette église copte représente beaucoup de monde. On estime à peut-être 10 ou 12 millions d'Égyptiens sont des chrétiens coptes, majoritairement orthodoxes, donc ils dépendent justement d'un responsable local, copte, en l'occurrence ce personnage. Quelques-uns, une minorité, moins d'un million sûrement, sont des coptes catholiques. Donc ils ont la même liturgie que les orthodoxes, mais ils vont avoir comme autorité spirituelle le Saint-Père François. Maintenant, l'Église, depuis pas mal de décennies, entretient des relations tout à fait fraternelles avec ces églises qu'on appelle les églises sœurs, donc en l'occurrence l'église copte égyptienne, qui a aussi une diaspora, bien sûr, il y a des gens qui ont migré, des Égyptiens, donc qui se rattachent à cette église copte égyptienne. Et cette rencontre qui a eu lieu récemment avec le pape François est une rencontre fraternelle. On a une foi commune, un même credo, on a des traditions différentes, des liturgies différentes, mais on se comprend sur le fond. Pour nous, Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est notre sauveur et on veut l'annoncer. Eux le font dans un cadre d'un pays, un grand pays, avec beaucoup de population maintenant, 80 millions peut-être au moins en Égypte, majoritairement musulmans, mais le pouvoir en place politique, un pouvoir assez fort, assez strict, on peut dire, Monsieur Sissi a le pouvoir, garantit la liberté des coptes, même de construire des nouvelles églises, d'entretenir celles qui sont existantes. Donc c'est un pays aujourd'hui qui est un peu calmé pour les tensions qui ont eu lieu auparavant avec des attentats graves dus à des extrémistes musulmans contre des chrétiens.
Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos. D'ici là, vous pouvez méditer cette émission en la réécoutant sur notre site en podcast. C'est donc www.radiourentiel.fr. À la semaine prochaine.
Ut non vas sit